Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 28 Tammuz, on est le 15 juillet. Le cours sera pour bénédiction et réussite dans tous les domaines de Yehoshua ben Eliyahu et Simcha, ainsi que pour la Rifua Shelema de Tehila Esther bat Rachel. Et on va continuer, et j'espère Bezrat Hashem terminer ce texte du Malbim sur les psaumes. Vous vous rappelez donc, on est dans le psaume 35, et vous vous rappelez donc, on a commencé cette étude magnifique, où le Malbim donc va petit à petit nous aider à mieux comprendre comment fonctionne la foi, la Emouna d'Israël, en ce qui concerne la possibilité que Dieu a de faire des miracles. Alors évidemment, ici le texte n'est pas pour convaincre qui que ce soit que les miracles existent. Le Malbim ne s'adresse pas à ce genre de personnes. Ça c'est un autre sujet. Le Malbim s'adresse ici aux gens qui sont croyants. Juifs, non-juifs, la croyance. Donc le dénominateur commun à toutes les croyances, c'est que Dieu est Kol Yachol, qu'il peut tout faire. Donc la définition, le point de départ d'une religion, c'est que le miracle est possible. Donc, à partir du moment où tu dis que le miracle est possible, comment fonctionne le miracle? 99% des croyants, la totalité des non-juifs et une grande partie des juifs, pensent que le miracle provient d'une, on pourrait dire, d'une volonté nouvelle d'Hachem qui, à un certain moment, décide d'arrêter ou de changer les lois de la nature. C'est-à-dire que, comment s'appelle la petite Yiska bat Esther. Et le cours sera aussi pour la Rifua Shelema de Yiska bat Esther. Et donc, en tous les cas, comment ça fonctionne le miracle? Hachem a créé la nature. La nature a ses propres lois. Selon les lois de la nature, il n'y a aucune possibilité que l'eau s'ouvre et que Israël traverse. Où il n'y a aucune possibilité que si quelqu'un, là, les nous, est dans une situation d'agonie, il n'y a aucune possibilité pour qu'il puisse s'en sortir. Mais Hachem peut décider de dire à la nature, halt, d'accord, c'est moi, je fais ce que je veux. Et il fait ce qu'il veut, donc le miracle vient d'une décision ponctuelle d'Hachem et de son intervention ponctuelle dans le monde en démolissant les lois de la nature et en intervenant de son propre gré et de son propre chef. Pourquoi? Je parle toujours au nom des autres croyances, puisque c'est lui qui a créé la nature, c'est lui aussi qui peut décréer la nature. Un roi nomme un ministre, il peut très bien le destituer. D'accord? Le ministre n'a pas fait ce que le roi voulait, ou pour des raisons X, le roi veut passer par quelqu'un d'autre que le ministre, il dit au ministre, tu bouges pas, et c'est moi qui fais, ou un nouvel envoyé qui fait. Donc, à partir du moment où effectivement les lois du monde fonctionnent comme ça, comme on le sait, l'homme, il a toujours tendance, c'est le grand défaut de l'homme, à comprendre par projection comment qu'il voit les choses chez lui, alors il les projette dans des mondes qu'il n'a pas devant les yeux. La grande, impardonnable, criminelle erreur des soi-disant scientifiques qui disent que le monde a des centaines de millions, voire des milliards, l'univers d'années, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un calcul. Et ils font de l'extrapolation, car jamais personne n'a pu calculer en temps réel l'âge du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé à un milliard d'années à calculer l'âge du monde. Mais qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On fait des expériences sur 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40 ans, je m'en fiche. On voit comment les choses évoluent et on projette. Si en 30 ans, le carbone, machin, etc., il a évolué d'eux, alors donc, ta. Et qui te dit que l'univers a toujours fonctionné comme il est devant toi aujourd'hui? Peut-être que non. Peut-être qu'il y a eu des accélérations, peut-être que l'atmosphère, la température, etc. Là,
c'est facile à faire calculer. On prenait, par exemple, on sait l'habilité de la lumière.
Oui.
Alors maintenant, voilà, on a un exemple maintenant.
Bien sûr.
La Providence a voulu, les Pluto.
Oui.
Il se trouve à quelques milliers d'années, centaines de milliers d'années. Mais ça, c'est un truc mathématique.
On va pas faire un cours de science, sinon on va se faire piéger. Vous avez donné une réponse, je vais donner la mienne, et puis après on revient pour le thé. La réponse, elle est évidente. Elle n'est pas de moi. Qui vous dit que la lumière a toujours eu cette vitesse? Elle a la vitesse qu'elle a dans les conditions de l'univers d'aujourd'hui. Qui vous dit que l'univers, cet univers-là, n'a pas été dans d'autres conditions que ce que nous connaissons aujourd'hui? Tout simplement. L'exemple, il est très très simple, Nathan. L'exemple est très très simple. Imaginez-vous un martien qui arrive dans ce monde. Il voit un enfant à 13 ans, il le mesure. Vous connaissez la réponse? Il fait 1m40. Il revient, il le mesure, à 18 ans, il fait 1m80. Qu'est-ce qu'il dit? Il a pris en 5 ans 40 cm. Ok? Combien il mesurait à sa naissance? Il y a donc 18 ans. Idiot. Parce que la croissance n'est pas la même entre 13 et 18. Donc, on clôt les choses, je reviens dans ce qui nous intéresse. L'homme fonctionne par des extrapolations. Et donc, c'est dit, de la même manière que dans notre monde, je peux donner le pouvoir à quelqu'un, mais je peux aussi, puisque c'est moi qui lui ai donné le pouvoir, je peux lui retirer, d'accord? De la même manière, Hachem a donné un certain pouvoir à la nature, il reprend ce pouvoir, et de là vient le miracle. 1 plus 1 égale 2. Si on admet que l'univers a un roi, le roi peut très bien nommer quelqu'un d'autre et dire à celui qui, généralement, est nommé, ne bouge pas, on va faire sans toi. Donc, d'après ça, si c'est vrai, toujours dans le monde des croyants qui croient dans ce qu'on appelle Schar ve'Onesh, récompense et punition, puisque d'une certaine manière, le deuxième fondement de la foi, premier fondement de la foi, peu importe si ce n'est pas l'ordre réel, premier fondement de la foi, bon, enfin, il y en a trois fondamentaux, Dieu existe, il peut, deuxième fondement, il peut changer les lois de la nature, troisième fondement, il y a une rétribution et des punitions de Dieu dans ce monde. C'est les trois fondements fondamentaux de toutes les religions. Alors, comment fonctionne le troisième fondement? Il punit et il récompense. Dans la mesure où la nature, elle ne reconnaît et elle ne fait aucune différence entre le bien et le mal, automatiquement, s'il y a récompense et s'il y a punition, ça ne peut pas venir de la nature. Parce que la nature, elle, que tu investisses de l'argent volé dans une affaire ou de l'argent propre, d'accord, l'affaire pour la nature va marcher exactement de la même manière. Donc, si on croit que quelqu'un qui a investi de l'argent sale dans une affaire, tôt ou tard, ça se retournera contre lui. Si ce n'est pas lui, ce sera ses enfants. Si ce n'est pas ses enfants, ça sera ses petits-enfants. C'est pour ça qu'on voit que des familles très riches disparaissent au bout de deux ou trois générations, des faillites, peu importe, etc. Mais parce qu'en vérité, parce que l'argent était sale et c'est pour ça que ça disparaît, en faisant un raccourci de Emouna, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que la nature l'a voulu. Parce que selon la loi de nature, tant que les affaires étaient bien faites, ils n'auraient pas dû faire faillite. Mais il y a eu une intervention miraculeuse. Hachem a décidé de quoi? Que cette affaire s'arrêterait. Donc quoi qu'il en soit, c'est toujours la même explication. La nature, elle, ne fait pas la différence entre le bien et le mal. C'est Hachem, lui, qui est obligé de faire la différence. Donc tout ce qui vient d'Hachem vient d'une manière qui n'est pas inscrite dans la nature. Je répète la phrase fondamentale, je n'ai fait que résumer ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, d'après les lois de la nature, que l'homme fasse du bien ou fasse du mal, la nature ne va pas changer pour lui. Elle n'en a rien à faire, la nature. Parce que Hachem a créé un monde qui est insensible à la morale. Enfin, c'est ce qu'eux croient. Donc il faut une nouvelle intervention miraculeuse. Imir tse Hachem, si Hachem veut, le gomlo ou le oncho, le récompenser ou le punir. Hach istarer elagmul veaonesh, retson meyuchad. Donc il faut, je répète en hébreu ce qu'on a vu en français, il faut donc ponctuellement une nouvelle décision d'Hachem, veanaga chadasha, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui n'est pas inscrit dans les lois de l'univers, bibilti emtsai, sans utiliser justement des intermédiaires, donc des lois, mais l'intervention de Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, Aval, maintenant on arrive enfin à notre cours. Aval à Torah telamdenu le'efer. Mes amis, on va aller doucement. Je voudrais lire pas mal de choses et les commenter. Donc, soyons patients. On va aujourd'hui, véritablement, depuis le temps que je vous prépare enfin ce texte-là, rentrer dans une des subtilités les plus extraordinaires du judaïsme authentique, donc de la sagesse authentique. Ou comment le Malbim va nous expliquer la manière dont le juif comprend la relation entre le monde et Dieu, et surtout la relation entre le monde et l'homme, beaucoup plus encore que le monde et Dieu. Si je devais donner un titre, je vais faire exprès, je vais donner le titre avant de voir le texte, si je vais donner un titre à ce qu'on va lire, écoutez-moi bien, le titre va être, et c'est ça ce qui est révolutionnaire et ce qui prend le contre-pied de toutes les fois, même les fois monothéistes, en dehors du judaïsme, c'est que pour toutes les religions, c'est Dieu qui fait les miracles. Et le titre de ce cours sera « L'homme fait des miracles ». Le Malbim va prouver que l'homme a été créé de manière à ce que c'est lui qui produise le miracle. Dieu n'a même pas besoin d'intervenir. Je suis porteur en moi de forces qui peuvent changer le monde, qui peuvent changer la nature. Encore une fois, on va retomber sur nos pieds, on va encore une fois revoir cette notion absolument incroyable du judaïsme, que finalement le monde a été créé pour dévoiler non la grandeur de Dieu, qui n'a pas besoin de dévoiler, il n'a pas besoin de nous, il se suffit à lui-même puisqu'il est Dieu, mais le monde a été créé pour dévoiler la grandeur de l'homme. Voilà. Et donc Olivier, c'est ce qu'il a dit. Ah non, pour une fois t'as dit quelque chose de vraiment vraiment juif.
Ah, c'est Olivier. Je suis d'accord.
Quoi, après des mois je suis arrivé à te faire tes chouvas. Extraordinaire. Très bien. Alors Aval à Torah, tel âme des nous les FR, la Torah nous apprend le contraire. Ah, maintenant, laissez-moi lire, je vous en supplie. Kikvar Aïda à Torah, la Torah a déjà témoigné. Sheateva bechol peulotea nimshechet achar maase adam. D'abord, on va voir le comment, après, on verra le pourquoi. Des centaines de versets dans la Torah, dit le Malbim, qui prouvent que la nature et son fonctionnement nimshechet. La nature et son fonctionnement sont la conséquence du comportement de l'homme. Atovim ou Araim. Et la Torah ne parle pas de miracle. Sheim, on voit dans la Torah qu'elle dit, Sheim yetivu maaseem, que si les actions sont bonnes, Yehoreru et Kinorativi. Le Malbim est aussi un grand artiste, un grand poète. Et souvent, il a des phrases comme ça, très très poétiques. Kinorativi, ça veut dire mot à mot l'harpe naturelle. Le violon de la nature. Ça veut dire que si l'homme se comporte bien, alors il transforme la nature en instrument de musique qui va lui jouer une belle mélodie, c'est-à-dire il va atteindre le bonheur. Et donc, kin orativi, amenagen la tzet likratam betupim ou bemcholot la rikalem bracha. C'est-à-dire que c'est lui, l'homme, par ses bonnes actions, qui va faire que la nature va se donner à lui de la meilleure manière possible. Et qu'elle va lui ouvrir toutes les portes de la bénédiction que la nature cache elle-même en elle. Ve'im yiru ma'aseem, mais si l'homme se comporte mal, yitkalkelu sidrei ha'teva, c'est lui qui détruit les lois et les règles de la nature. Umarochotea, et toute la structure de la nature est bousillée par l'homme, par ses mauvaises actions, non uniquement parce que les pots d'échappement, les usines, etc. Pourquoi je donne cet exemple-là ? Le Malbim est en train de nous parler d'un phénomène que lui ne connaissait pas, parce qu'à son époque, il n'y avait pas de pollution, puisqu'il n'y avait pas encore la technologie. Il est en train de nous dire que de la même manière que nous avons compris aujourd'hui, presque 200 ans après cet enseignement, que l'homme est capable, par la pollution, d'accord ? C'est pour ça que je dis que, j'ouvre une parenthèse, je sais, mais c'est très très important. Pourquoi nos maîtres nous avaient prévenu que la compréhension profonde de la Torah ne se dévoilerait que dans notre génération, juste avant la délivrance finale? Les cours qu'on donne et que des milliers donnent d'autres donnent dans d'autres langues, peu importe. Pourquoi? Parce que les maîtres d'Israël ont toujours connu les secrets. Mais eux avaient un cerveau qui leur permettait de pouvoir comprendre des choses qui, dans leur génération, étaient une abstraction totale. Il n'y avait aucun point de repère aux notions que eux connaissaient et transmettaient. C'est pour ça que le grand public ne pouvait pas atteindre ces notions-là. Parce que c'était comme lui parler le chinois. Aujourd'hui, on vit dans un monde où pratiquement tous les secrets de la Torah ont un correspondant terrestre qui peut nous permettre de les comprendre. C'est pour ça que maintenant je vais faire la parenthèse. La pollution. Est-ce que les hommes auraient imaginé un jour que les machines humaines peuvent détruire l'univers ? Tu aurais raconté ça même au plus grand savant d'il y a 300, 400, 500 ans, 1000 ans. Il t'aurait ri au nez. Un homme va construire une machine qui peut détruire l'univers. Mais quel lien il a avec l'univers ? Aujourd'hui, on sait qu'on détruit les couches d'ozone, qu'on trafique complètement les rayons du soleil, et va savoir tout ce qu'on ne nous a pas encore révélé, et va savoir tout ce qu'il y aura demain. On sait aujourd'hui que les portables, les ordinateurs, c'est une véritable troisième guerre mondiale qui est en train de tuer le monde. Les radiations, etc., etc., et les dommages dans le monde. Mais qui sont, peu importe. On sait aujourd'hui que l'homme crée des machines qui détruisent le monde, les structures du monde. Et bien, quand le Malbim, si ce texte-là avait été lu il y a 300 ans, quand le Malbim dit que les actions de l'homme, et n'en parle pas des machines, les actions de l'homme détruisent ou construisent l'univers, il y a 300 ans, il n'y avait aucun point de repère de ce phénomène dans le monde. Donc, seuls des gens, seule l'élite spirituelle pouvait dire « Ouais, ouais, le Malbim, il a raison. » Mais aujourd'hui, tout le monde peut comprendre ce que dit le Malbim. Si une machine peut détruire l'univers, l'homme ne peut pas détruire l'univers. Pourquoi l'homme est une machine différente ? Mais vous me répondrez, oui, mais la machine, ça se voit, parce que maintenant on peut calculer donc la pollution qui monte dans l'atmosphère et qui détruit la couche d'ozone, mais c'est d'air. La seule différence, c'est que quoi ? C'est que l'énergie qui sort de la voiture, elle est plus matérielle et tu peux donc la calculer, la mesurer et la voir. Tandis que l'énergie qui sort d'un corps qui faut, cette énergie est encore beaucoup plus immatérielle et on n'a pas encore les structures scientifiques pour la capter, la voir et la comprendre. Mais lorsqu'un homme faute, dans la mesure où la vie c'est de l'énergie, lorsqu'un homme faute, il dégage des énergies qui elles aussi se répandent dans le monde et attaquent la nature. Et de la même manière que l'homme peut envoyer par une machine des énergies positives, un bon parfum, une bonne odeur, une bonne mélodie qui me détend, qui me guérit, qui me fait du bien, d'accord ? De la même manière que on sait très bien que dans un bon environnement, la nature se développe mieux que dans un mauvais environnement. De la même manière, quand l'homme fait du bien, l'homme est une machine aussi. Quand l'homme fait du bien, il dégage des énergies positives qui font du bien au monde, qui font du bien à la nature. Ça n'a rien à voir avec le miracle, comme je viens d'expliquer. C'est le maître du monde qui, dès le départ, a créé l'homme porteur de cette capacité d'influencer en bien ou en mal le monde. Ça veut dire que, je vais d'abord prendre le raccourci pour choquer, puis après je vais l'expliquer.
La
pluie c'est l'homme, on va le voir. Yahim Shamat Tishmou Venate Kishmeh Beitam, c'est l'homme.
Lui va donner.
Je vais l'expliquer tout de suite. C'est marqué que c'est Moshe qui donne pas Hashem. Venate Kishmeh Beitam, c'est Moshe qui parle. C'est-à-dire ceux qui vont dans le chemin de Moshe. On va expliquer tout de suite. Un tsunami est provoqué par les hommes. Un tremblement de terre est provoqué par les hommes. Seulement quoi ? Pendant des millénaires, qu'est-ce que disaient les curés et les avdils, les rabbins ? Le châtiment divin s'abat sur le monde. Dieu punit les viles créatures. Ça, c'est le discours religieux qui a pourri le monde pendant des millénaires. Très bien. Parce que quand après on a prouvé que c'était simplement des plaques qui se rencontraient sous l'eau et qui faisaient sortir des vagues, on a dit aux rabbins, aux curés, excusez-nous messieurs, mais allez à l'école. Très bien. Et c'est comme ça que la religion est morte. Qu'est-ce que les maîtres d'Israël, parce que les rabbins parlaient peut-être comme ça, mais pas les maîtres d'Israël. Qu'est-ce que les maîtres d'Israël savaient ? C'est que le monde, il a été créé et repose sur un équilibre. Normalement, les plaques qui sont sous l'océan n'ont pas de raison de se rencontrer. La preuve, c'est qu'elles ne se rencontrent pas tous les jours. Sinon, le monde ne serait pas viable. C'est-à-dire que Hachem sait comment il a créé son monde. Et il a créé son monde de telle manière que tout ce qui est dangereux est équilibré et vit selon un plan, une harmonie qui fait que les choses fonctionnent et ne se dérèglent pas, ne s'emballent pas, ne deviennent pas folles et le monde est viable. Donnons un exemple dans le corps humain. L'Ohalénou, c'est quoi un cancer ? Tout d'un coup, une cellule ou peu importe quoi, qui ne répond plus du tout aux normes prévues par la nature humaine. Elle ne se comporte pas comme elle devrait se comporter. Alors maintenant, on a donc retrouvé l'origine du cancer. Mais le pourquoi, non. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait le pourquoi. Et même lorsqu'un jour on saura le pourquoi, ça restera un pourquoi technique qui ne sera pas encore le vrai pourquoi. Viennent les maîtres d'Israël et disent, prenons le cas d'une maladie. Aujourd'hui, ça m'est plus facile de dire parce que 99% des médecins pensent ce que je vais dire maintenant. Pas dans mon langage à moi, mais dans leur langage, on dit la même chose. Si l'homme vivait d'une manière équilibrée, heureuse, épanouie, en harmonie avec lui et le monde, qu'il n'ait jamais de pression, jamais de tristesse, jamais d'angoisse, si toute la maréchet, si toute, on pourrait dire, comment on dit la maréchet, si tout le système nerveux, émotif, moral de l'homme fonctionne normalement, l'homme ne serait pas malade. D'où viennent les maladies? C'est du si, bien sûr, mais ça existe en théorie. D'où viennent les maladies? D'accord? Des détraquages au niveau du ressenti qui vont automatiquement amener des détraquages au niveau du physique. On sait très bien que 99,9% des maladies graves, d'accord, proviennent de détraquages psychologiques, des moments durs qui ont été traversés, etc. Ou si ce n'est pas toi, tu l'as hérité de tes parents, etc., etc. Il y a des maladies qui sont très, très connues chez les enfants des parents de la Shoah, très, très, très connues, qui ont été prouvées. Il y a des maladies juives ashkénazes très connues, parce que le monde ashkénaze a vécu beaucoup plus dans la peur, dans l'angoisse, dans la terreur que le monde séfarade. Il y a des maladies typiques, etc., etc. Et de même, pour ne pas parler que des juifs, il y a des maladies typiques de telle ou telle région, de tel ou tel peuple, etc. Parce qu'ils ont un vécu qui est différent. Aujourd'hui, aucun médecin sérieux ne remet en cause le lien étroit qu'il y a entre le psychisme et le physique. Donc, qu'est-ce que dit le Malbim? Seulement, il va un peu plus loin, puisque nos maîtres sont en avance sur le futur. Donc, il va encore un peu plus loin que ce que commencent à accepter les savants d'aujourd'hui. Ils disent, à chaque fois qu'un homme a un comportement, il est porteur d'énergie. Ces énergies vont agir en lui, mais même dans le monde. Pour l'instant, les savants commencent à comprendre que le comportement peut avoir une influence sur mon physique. Ils commencent à l'admettre. Mais dans le monde, sur le soleil, sur la lune, faut pas pousser quand même, faut pas exagérer. Nos maîtres, qui ont plusieurs millénaires d'avance, disent « Un jour, vous comprendrez que même le comportement d'un homme sur Terre dégage une énergie qui, elle, ne se perd pas. Cette énergie se propage, et si elle est négative, elle va peut-être atteindre le système solaire, le système, etc. Et ça va influencer, ça va avoir des retombées sur le monde. L'effet papillon, peu importe. On sait aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, qu'on pourrait retrouver aujourd'hui les mots doux que Avram disait à Sarah. Ça, on ne nous le dit pas dans la Torah, mais j'imagine qu'il devait lui dire « Ma chérie, je t'aime ». Très bien. Eh bien, on pourrait coincer Avraham et retrouver le « je chéris de thème » de comment? Parce que la voix, elle existe quelque part dans le cosmos. Il suffit de créer une machine. Et la voix, le son, il a une vitesse. Seulement, il se décompose, il n'est plus que énergie de son, mais il n'est plus parole. Il suffit de créer une machine qui retrouve tous les sons émis par les hommes depuis des millénaires, les retransformer en paroles et on réentend ce qui a été dit il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est scientifiquement Be'esegyad. Aujourd'hui, seulement, ça coûte trop d'argent, on n'a pas envie de le faire. Mais aujourd'hui, les savants savent comment le faire. Retrouver les sons perdus. Et quand nos maîtres disaient il y a des millénaires, il n'y a aucune parole qui se perd, aucun acte qui se perd, toutes les paroles sont enregistrées et tous les actes sont écrits. On dit c'est de la religion, mais non, nos maîtres ne faisaient pas allusion à la religion. Ils faisaient allusion à un système, parce qu'ils connaissaient le monde et l'univers, puisque la connaissance de l'univers a été donnée à Moshe en même temps que le don de la Torah, Bereshit, c'est le fameux secret de ce qu'on appelle le Maase Bereshit, le secret de la création. Et nos maîtres savaient que dès que tu as dit « zut », ton zut ne disparaîtra jamais. Alors le problème est, c'est que s'il y a des mauvaises paroles, ces mauvaises paroles-là ne disparaissent pas. Elles se transforment en énergie. Ces énergies-là, elles s'entreposent et se rajoutent et se rajoutent et se rajoutent et se rajoutent jusqu'à un jour où le monde explose. Parce que ces énergies existent. Quand j'ai dit « je », le son, il existe. Par exemple, il existe quelque part parce qu'on peut le mesurer. Le jeu, il peut faire bouger une membrane. Donc c'est une énergie. Elle ne disparaîtra pas cette énergie. Maintenant j'ai dit jeu. Le son est déjà maintenant dans la salle. Dans un mois, il sera peut-être dans le ciel au-dessus de Jérusalem. Et puis peut-être dans 1000 ans, il sera quelque part dans le cosmos, mon jeu. Mais il est là. Et donc s'il est là, ma mauvaise parole, plus ta mauvaise parole, plus celle de l'autre, des millions de fois, sur des milliers de générations, c'est des milliards de milliards de milliards de mauvaises énergies. Il arrive un moment où, paf, il y a un tsunami. Alors, c'est-à-dire quoi, il y a un tsunami? Le tsunami, c'est pas Dieu qui dit « Allez, pas, rencontrez-vous !» Non, c'est un mécanisme de mauvaise énergie qui détraque le monde. Pourquoi, à ce moment, à cet endroit, je n'en sais rien? Moi, je n'en sais rien, mais ça peut s'expliquer.
Comment?
Et les bonnes paroles, bien évidemment, maintiennent le monde. Mais ça, mes amis, c'est un verset que jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours compris comme un verset religieux. Moi, je vous explique que c'est un verset scientifique. Qu'est-ce que dit le verset ? Imlo beriti yoma valaila chukot shamaim vaaretz lo samti. Traduit en français, si ce n'était l'étude de la Torah jour et nuit, d'accord, le monde ne tiendrait pas. Et nos maîtres expliquent la chose suivante. Je les rire. Si on pouvait imaginer une fraction de seconde qu'il n'y ait pas quelque part dans le monde un juif qui dit une parole de Torah, le monde retournerait au néant. Ah, évidemment, ça ne fait pas sérieux en 2015. Moi, je suis très sérieux. Je n'ai pas peur des savants parce qu'un jour, ils m'embrasseront la main. Ils diront, oh là là, les juifs, comment vous saviez tout ça? Je n'ai pas peur. On est simplement en avance. Et donc, parce que la Torah le dit. Effectivement, les paroles de Torah dégagent des énergies qui sont tellement positives qu'elles maintiennent le monde et surtout arrivent à contrebalancer toutes les mauvaises paroles qui sont dites. Parce que quantitativement parlant, il y a des centaines de millions, voire de milliards de mauvaises paroles plus que de bonnes paroles dans le monde. Seulement une parole de Torah, elle est chargée de telles énergies qu'elle seule, elle peut repousser des millions d'autres mauvaises paroles. Parce que si il n'y a pas, sur le plan quantitatif, d'équilibre, il est au contraire à l'avantage du mal. Sur le plan qualitatif, l'avantage est au bien. D'où on le sait, c'est ce que nos maîtres disent. Mais at mina or, docha arbe, mina chosher. Tu es dans une pièce obscure, tu allumes une allumette, une petite allumette. La femme, elle est comme ça. Tu éclaires toute la pièce.
Quelle est la place de Dieu puisque c'est l'homme qui.
Il n'y a pas de place. Il n'est pas là. C'est ça le grand chidouche qu'on va voir, mes amis. On n'a pas besoin de Dieu pour faire fonctionner le monde, d'accord? Bereshit bara Elohim, c'est pas de moi, seulement. Comme je le dis en français, ça choque. Mais seulement que moi, je sais traduire en français ce qui est marqué en hébreu. Je vais vous le dire où c'est marqué mon cours en hébreu. Bereshit bara Elohim et Hashem v'taharet. Au début, Elohim a créé le ciel et la terre. Rashi dit, Bereshit, bishvil Israël ou bishvil la Torah. Ça veut dire quoi? Qu'à partir du moment où le monde a été créé, il a été confié à Israël et à la Torah. Vous étudiez la Torah, le monde se maintient. Vous étudiez pas la Torah, le monde se détruit.
Mais la Torah, elle
ça
est
va.
Voilà.
Comment? Non, depuis Adam Arishon, il y a la Torah. Il y a toujours eu au moins un homme sur terre qui étudiait la Torah. Ça, c'est notre
mais
tradition.
Juif, Adam,
mais c'est pas une question de juif. Il était adamique.
Ah, c'est pas Israël.
Bon, mais Dieu, oh, pas Israël, mais c'est
d'ailleurs. Dieu a créé l'univers.
Depuis Israël, d'accord. Depuis Israël. Donc, avant, c'était la Torah avec les tzadikim, les justes des autres générations, depuis Israël. Maintenant, c'est la raison pour laquelle la Torah, justement, a été donnée à Adam. Parce que sinon, le monde ne pouvait pas être, ne pouvait pas être créé, ne pouvait pas exister. Ça va si loin, ça, que le Rambam dit qu'en vérité, le compte précis, c'est pas seulement un. Le Rambam dit qu'il faut qu'il y en ait au moins 36, les fameux 36 justes sur lesquels le monde repose. C'est pas un, c'est 36. Il n'y a pas une génération où il n'y a pas au moins 36. On lui a posé la question, alors Adam, il était tout seul, mais Adam, il contenait l'humanité tout entière, donc il était tout le monde.
Mais Noir,
voilà. Comment 36, Noir, c'était aussi Neshama Klalit. Il y a des réponses
à ça. C'est pas pour ça qu'il y a eu le Maboul.
Comment?
C'est pas pour ça qu'il y a eu une œuvre qu'il y a eu le Maboul.
Non, on parle de. Le monde retourne au néant, il n'existe plus.
C'est pour ça qu'il n'y avait plus 36
tzadikim. Oui, mais malgré tout, le monde n'est pas retourné au néant à l'époque de Noir. Le monde existe. Là, on parle que tout disparaîtrait. Aïn, Matrix, tout disparaît. On ne voit même pas le corps. Je parle du néant. Pas seulement de la disparition d'une partie de l'humanité ou même toute l'humanité sur une ou deux personnes. Je parle du néant, que tout disparaît. Tu es en train de travailler sur l'ordinateur, tu as oublié de faire save, il y a une panne d'électricité, 2 heures de travail est parti. Ok? Très bien, c'est ça qu'on parle. Comme si tu n'avais jamais travaillé. C'est ça que je parle. Quand ça arrive pour la première fois, on fait toujours en sève. Hein? Une fois que c'est arrivé, alors là, on ne se fait plus jamais avoir. Mais juste un instant. Donc quoi? Le Rambam va jusqu'à dire c'est la raison pour laquelle il faut 36 justes et pas un. Ou bien une Neshama Klalit, une Neshama qui contient elle-même les forces de 36 autres. Ou bien, dit le Rambam, et le Rambam rajoute pardon, et sur ces 36, la majorité doivent se trouver en permanence en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle Adam a été créé en Eretz Israël. C'est-à-dire que sur ces 36, c'est quoi la majorité de 36 ?
C'est quoi ?
La majorité de 36, c'est... ça fait honteux quand on publie que ça fait 19. Donc il faut qu'il y en ait au moins 19 en Eretz Israël. Et le Rambam dit, d'accord, même après la destruction du temple, etc., etc., il y a toujours eu au moins 19 grandes sadikim en Israël sur lesquels le monde reposait. Maintenant, on enlèverait ces 36 sadikim, ou même il n'y aurait que 17 ou 18 grandes sadikim en Israël, et pour compléter les 39 autres en France ou aux États-Unis, le monde disparaît. Je ne parle pas qu'il arrive une catastrophe, comme Dov voulait dire. Le monde disparaît. Matrix, pour ceux qui ont vu le film, tu débranches, il n'est plus là, il n'y a plus rien. D'accord ? C'est ça. Donc, alors évidemment, tu ne peux pas croire en des choses pareilles. Mais oui, on peut croire. Un instant, collier. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'énergie négative dans le monde que c'est un miracle qu'il tient le monde. C'est parce que c'est une véritable pollution non captable par les appareils des physiciens, mais une véritable pollution. Et qu'est-ce qui dépollue un petit peu le monde et qui lui permet malgré tout de tenir ? Les paroles de Torah, les paroles de Torah, les paroles de Torah, les paroles de Torah.
C'est pas Dieu qui a créé ce monde.
Oui, il a créé comme ça.
Non, mais non. Il a créé aussi l'homme qui est avec tous ses...
Non, mais c'est pour ça que je dis qu'on n'a plus besoin de Dieu. Ça veut dire que si je poussais la provocation plus loin, mais ce que je vais dire est fondamentalement juif et personne ne pourra me contredire. En vérité, la religion juive n'a pas besoin de Dieu. Pourquoi ? Non, mais comprenez bien ce que je veux dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ça la grandeur de Dieu. C'est qu'il a tout donné à l'homme. Ça veut dire qu'il nous a responsabilisés à l'absolu. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que j'ai tout mis en toi. Tu n'as plus besoin de moi. Tous les mécanismes sont en toi, oui.
Mais d'un autre côté, on dit aussi que l'univers est recréé constamment, à chaque instant, par Dieu lui-même. Donc Dieu, il est présent dans ce monde.
Il est évident, Olivier, ta question est très juste. Il est évident, Olivier, que ce que je dis, c'est de la provocation pour mieux vous faire comprendre. Évidemment que Dieu est là. Évidemment qu'il est présent. Et tout le Beit HaMikdash, Beshachamti Betochan, c'est quoi ? On peut très facilement rendre caduc ce que j'ai dit, c'est de la provocation volontaire pour vous faire comprendre quoi ? Que dans le domaine de la responsabilité du fonctionnement du monde, c'est entre les mains de l'homme. On n'a pas besoin de Dieu.
Non, mais Dieu est présent, en même temps, il laisse l'homme déterminer le monde.
C'est ce qu'on appelle, dans nos textes à nous, « Naase Shutaf la Kadosh Baruch ». Si je devais dire en français, c'est quoi cette shoot-a-foot, cette association ? Lui crée et nous on maintient. Lui crée et nous on maintient. Maintenant qu'il y a un principe incroyable que nous révèlent nos maîtres, qui est aussi en avance sur la science, comme quoi le monde, comme, contrairement à ce que pensent les scientifiques, aurait été créé une fois, il y a un milliard, X millions, etc. Et après il continue sur sa lancée, les savants juifs, d'accord, qui seront reconnus un jour comme étant la science authentique, ont déjà dit depuis des millénaires qu'en vérité que la création se reproduit à chaque instant. Elle n'est pas figée. Mais ça, les savants ne peuvent pas le comprendre aujourd'hui encore. Ils le comprendront un jour. Mais le principe reste le même. Lui crée, nous on maintient. Lui crée, nous on maintient. Lui crée, nous on maintient. C'est-à-dire que l'association est « je crée, mais ce n'est pas moi qui maintiens, c'est vous ». Les mâts avoir donné, on peut donner un exemple. J'investis l'argent, c'est toi qui travailles avec. Ça veut dire que moi j'ai investi l'argent, tu ne pouvais rien faire sans moi. Mais d'un autre côté, comme c'est toi qui travailles avec, si l'affaire coule, c'est ta responsabilité à toi. Si l'affaire est bénéficiaire, c'est ton mérite à toi. Moi mon mérite il est grand, et j'ai permis à l'affaire d'exister. Mais d'un autre côté, c'est toi qui l'as fait monter, c'est toi qui la coule. Ça c'est la relation entre l'homme et Hachem. Hachem apporte l'énergie, l'existence, mais l'utilisation c'est nous. Dans l'utilisation, j'ai dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Donc, comme le judaïsme, c'est essentiellement pas la religion de la contemplation, mais la religion de l'action, donc dans le judaïsme authentique, on n'a pas besoin de Dieu, puisque dans l'action, j'ai pas besoin de lui. Tout est en moi. Oui.
Rav, c'est pour ça, Maïmonide l'a dit, 36, c'est comme par hasard, 36, ça fait des fois Chai, non ?
C'est connu, cette explication-là. Chai en haut et Chai en bas.
Chai en haut,
Chai en bas. Les 36, ils permettent au Dieu vivant et à l'homme vivant d'être ensemble. Deux fois chai, deux fois vivant, valeur numérique 36, effectivement.
C'est pour ça que Maïmonide dit que Dieu, c'est Elsof.
Alors, on continue un petit peu. Maintenant, alors donc, on a déjà pas mal expliqué. Donc, un exemple. Alors là, maintenant, ça va être un peu plus difficile. Le fameux exemple, parmi des dizaines d'autres, donné par la Torah. Si vous écoutez mes commandements, il y aura la pluie, le bétail sera fertile, les champs donneront de bonnes récoltes, vos ennemis vous les vaincrez, bien sûr, il n'y aura pas de maladie. Toutes ces choses qui promettent le bon comportement du monde, d'accord ? Mais un comportement du monde qui en soi n'est pas miraculeux, car ce n'est pas un miracle d'être en bonne santé, ce n'est pas un miracle d'avoir les pluies, ce n'est pas un miracle d'être fécond. Mais, alors, ça veut dire que quoi ? Qu'est-ce que veut nous dire le Rambam, Malbim ? Tu vois bien que Hachem, on ne dit pas dans la Torah, si vous me suivez, vous aurez un miracle, c'est-à-dire une manifestation hors nature. Au contraire, si vous me suivez, la nature fonctionnera bien. C'est donc bien la preuve, dit le Malbim, que quoi ? Que le comportement influence le bon fonctionnement de la nature. Donc ça rend complètement caduque la thèse qui dit que quoi ? Que le comportement n'a pas d'influence sur la nature, simplement que quoi ? Que le bon comportement va faire en sorte que Hachem va t'aider d'une manière miraculeuse. Mais le Malbim dit, mais les bonnes pluies, c'est pas un miracle. En Afrique, il y a de bonnes pluies tout le temps. En France, en Normandie, il y a des bonnes pluies tout le temps. Donc, des bonnes récoltes. Allez demander aux Texans s'ils n'ont pas des bonnes récoltes. En bonne santé, il y a des gens qui vivent jusqu'à 105 ans au Tibet, en Chine, dans les campagnes, etc. Donc, vivre longtemps, avoir de bonnes pluies, la fécondité, vaincre ses ennemis, ce n'est pas un miracle. Donc, demande le Malbim, pourquoi on lit le bon comportement de l'homme, un fonctionnement de la nature qui peut ou ne peut, peut ne pas être, mais qui en tous les cas apparemment n'est pas directement lié au comportement de l'homme. Car ceux qui vivent jusqu'à 105 ans ne sont pas forcément des modèles de moralité. Les Texans qui ont les meilleurs champs du monde, je ne sais pas eux ou peu importe où, ne sont pas forcément des exemples de moralité.
Pourquoi les mots éteignent ? Pourquoi Tinago, si vous allez me mitzvotai, il y aurait le Geshemito ?
Comment ?
Pourquoi le donner ? Il y aurait le Geshemito, ça c'est la nature. Pas besoin d'avoir un matana. Pour ça, quand tu dis,
ce qui est incroyable, cher ami, c'est que vous donnez la réponse. Regardez le phénomène. Vous donnez la réponse dans votre question en changeant le texte parce que, étant israélien, vous avez compris qu'il y a une erreur grammaticale dans le texte. Vous avez donné la réponse dans le texte. Le texte vous a piégé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Venatati gishmechem beitam, ve'eten gishmechem beitam. Et lui, quand il a posé la question, il l'a dit comme un israélien, ve'eten. Mais le texte ne dit pas ve'eten, il dit venatati. Cette remarque n'est pas de moi. Pourquoi Vénatatique est un passé ? J'ai déjà mis dans le monde le mécanisme du bon fonctionnement. Je vous demande à vous de le faire fonctionner. Jamais il est dit Ve'aya im shamoa tishmeu el mitzvay ve'eten et gishmechem beitam ve'natati gishmechem beitam. J'ai mis dans le monde les structures telles nécessaires qui font que si vous écoutez mes commandements, la pluie marchera bien. Le ve'natati change tout. C'est donc bien la preuve que ce n'est pas une intervention de Dieu sur le moment, mais un mécanisme déjà créé qui simplement est mis en marche par l'homme. Venatati gishmechem. Voilà. Nathan, ça va être le déplacement, votre question et ma réponse, parce que vous n'imaginez pas ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que même dans le verset lui-même, il est inscrit toute cette.
Mais ça ne change pas les fondements de la question. Même si Natati au passé.
Ok, c'est ce que j'ai dit.
Pourquoi passer ?
Mais par quoi ?
Pourquoi Natati ? Pourquoi pas.
Non.
Ce
qu'Hachem veut nous dire, c'est que j'ai créé le monde dans le passé de manière à ce qu'il soit sensible à votre comportement.
Mais
non, j'ai donné la réponse, je peux pas.
C'est
la meilleure réponse du monde.
Vous pouvez dire à la fin, Hachem bara Elohim nekuda la'asot. Vous devez faire tout.
Et Nathan, j'ai répondu à votre question. Le chidouche du pasouk est, c'est que c'est un chidouche incroyable. c'est qu'on aurait pu croire que le monde a été créé seulement avec une sensibilité naturelle. C'est-à-dire, c'est l'hiver, c'est l'automne, il pleut. On aurait pu voir que la nature n'est sensible qu'à la nature. L'automne, d'accord, crée la pluie, à cause de l'évaporation et tout ce qu'on sait, etc. Hachem nous dit non, « Venatati gishmechem be'itam » Lié à vos ma'aseem. Ça veut dire que de la même manière que l'automne amène la pluie, de bonnes actions aussi amènent la pluie. Maintenant, s'il y a une question, la question véritable est la suivante. Puisque de toute façon, les pluies viennent grâce à l'automne. Alors, quelle est la différence si elles viennent grâce à l'automne ou si elles viennent grâce aux bonnes actions ? D'accord ? Alors, la réponse, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre tradition, « guishme » Bracha. Gishme Bracha. Alors, quand on va faire le tikkun, qu'est-ce qu'on dit Veten? Les Bracha velo les klala. Ça veut dire que quoi? Des pluies, tout le monde en a. Mais des pluies de Bracha. Non. Ça veut dire des pluies bénites qui amènent une véritable prospérité, une véritable santé, une véritable réussite. J'explique. Il y a effectivement, juste un instant Michael, deux sortes de pluies. Il y a les pluies qui viennent parce que c'est l'automne.
Naturel.
Et il y a naturel. Et il y a au même moment, en automne, des pluies qui tombent à cause de ma'asenu, à cause de bonnes actions. Maintenant, le piège est, écoutez-moi bien parce que vraiment, je vais dire... Bon, je souhaite toujours que le coup vous intéresse autant qu'il m'intéresse à moi. Vous imaginez pas. Moi, d'accord, je suis en automne à Jérusalem, je vois qu'il pleut. D'accord. Le même automne, je prends l'avion, en deux jours, je suis à Rouen, je suis peu importe, quelque part en Normandie. Comment? Non, mais je parle à un moment où il pleut. Je vais au même moment dans un autre pays où en automne il pleut. Je vais à Rouen, peu importe, en Bretagne, en Normandie, je vois, il pleut. Qu'est-ce que je dis? Ben, il pleut. Comme c'est évident que là-bas en Normandie, ce n'est pas à cause des mitzvot, donc à Jérusalem, ce n'est pas à cause des mitzvot. Puisque il pleut, donc c'est à cause de quoi? L'automne. Très bien. Il a raison, 100%. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les pluies ne viennent pas de la même vanne. Il y a la vanne nature, il y a la vanne bonnes actions. Maintenant, laissez-moi aller jusqu'au bout. Si c'est des pluies, d'accord, qui viennent de manière naturelle, d'accord, ces pluies-là, elles font le bien qu'elles font pour l'instant, mais elles n'assurent en rien une prospérité, une réussite économique, ni rien. En rien. Au contraire, toutes les civilisations finissent par disparaître. Nos ancêtres, les Gaulois, nos ancêtres, les Grecs, nos ancêtres, les Romains. Ils ont tous disparu. Pourtant, en Grèce, il y avait beaucoup de pluie. À Rome, il y avait énormément de pluie. Mais nos ancêtres, les Gaulois, en Gaule, il y avait beaucoup de pluie. Par contre, on ne peut pas dire nos ancêtres, les Hébreux, car on n'a pas d'ancêtres, c'est nous, on est là. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan de la prospérité économique, aucune garantie. Il n'y a pas de bracha dans cette eau-là. C'est de l'eau. C'est de l'eau mouillée, ce n'est pas de l'eau bénie. De même, au niveau de la santé, tout ce qui pousse provient des pluies. Si c'est des pluies naturelles, ça sera des fruits. Fruits. Si c'est des fruits qui poussent une pluie bénie, bracha, alors à ceux qui vont les manger, ve'achalta, ve'savata, ve'berachta, ça apporte aussi la santé. Ça apporte aussi la force. Combien de textes dans le Talmud, dans le Midrash, qui dit que dans les meilleures époques, les jeunes en Israël avaient une force inimaginable. D'accord? Inimaginable. Inimaginable. Si je vous raconte des textes, vous n'allez pas me croire. Vous allez dire, c'est pas possible, il n'y a que Dino qui peut sortir des choses pareilles. Mais vous ne savez pas, mais Dino, c'est un enfant de cœur à côté des maîtres d'Israël. Vous savez ce que disent les maîtres d'Israël? Quand il y a eu le Chorban Beth Amigdash, on est à quelques jours de Tisha B'Av, Chorban Beth Amigdash, et quand on était emmené en captivité, les survivants, qui étaient forcément des jeunes, comme dans les camps, qui c'est qui survivait à plus de un mois, deux mois dans les camps, un 16 ans, un 17, un 18 ans, 25 ans, t'étais déjà trop vieux, t'avais aucune chance. L'espérance de vie était maximum 3 mois dans un camp, maximum. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui étaient très très jeunes. Et donc, Pareil, après tous les massacres de Nabucodonosor, qui c'est qui est resté, qui c'est qui est emmené en captivité? La jeunesse. Les 17, 18, 19, ceux qui ont pu se planquer, rester cachés 3-4 jours sans manger, etc. Ils sont emmenés. Le Midrash dit qu'ils étaient tellement beaux, tellement forts, tellement, waouh, d'accord, que toutes les Babyloniennes, d'accord, quand ils ont vu arriver les défilés des enfants d'Israël, d'accord, elles sont toutes mises à avoir des problèmes génétiques, tellement elles en avaient envie, d'accord, tellement elles en avaient envie, elles ne pouvaient pas supporter. Elles ont regardé, et les Babyloniens, elles ont vu, mais d'où ils sortent cela? Elles ont toutes eu des problèmes génétiques. Gynécologiques. Elles ont toutes eu des problèmes gynécologiques. Et je ne rentre pas dans les détails de ce que nos maîtres nous disent. Des écoulements, des ci, des ça, etc. Enfin, je veux dire, ce n'est pas Dino qui parle. Hein. Il faut comprendre. Elles n'en pouvaient plus. Et ça, c'était les rescapés après les massacres. Nos maîtres disent que les Bahourim en Israël, ils faisaient rougir de honte le soleil. Et nos maîtres disent pourquoi? Parce que la nourriture donnait des forces, l'air, à Virad Eretzrel Markim. Ça donnait des forces. Ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient forts. Ils étaient brillants. D'où la jalousie des peuples. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est Gishmei Bracha. Gishmei Bracha, ça veut dire que la pluie, toi, tu crois qu'elle provient de la même source, que tes yeux ne voient pas. Mais Hachem nous a dit, Benatati Gishmerem Beitam. J'ai deux réservoirs qui peuvent s'ouvrir et qui font pleuvoir en automne. Dans le monde entier, en automne, il pleut des eaux mouillées. En Israël, seulement en Israël, bien évidemment, n'imaginez pas qu'un juif méritant va voir ça à New York. Mais en Israël, quand tout mon peuple y est et est méritant, Veya im shamo tishmeu, c'est un pluriel, c'est tout le peuple, Benatati Gishmerem Beitam, Gishme Bracha. Beitam, dit le Talmud, Gishme Bracha. Et donc tout change. Ça, c'est de ça qu'il parle. Ça, c'est directement lié au comportement humain. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est pas le miracle auquel on est habitué de parler. Par exemple, qu'est-ce que c'est un miracle classique? Miracle classique, ça s'est produit aussi dans la Bible. Par exemple. Non, je parle au niveau des pluies. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un exemple dans les Chumashim, mais dans les prophètes. À l'époque des rois, c'était la catastrophe. À l'époque d'Elio Hanavi, d'accord, le peuple s'est très mal comporté, on le sait, etc. Il y a un décret, trois ans de sécheresse. Très bien, 3 ans de sécheresse. Pas de pluie. Après, le peuple fait teshuva, mais le peuple fait teshuva hein, en plein été. En plein été. Et, d'accord, mais maintenant, il nous faut de la pluie. Je ne sais plus si c'est Eliaou ou Elisha, je ne sais plus, peu importe. Le prophète, il ne s'inquiétait pas, je veux dire. Comment? Elio Hanavi. Le prophète dit, vous inquiétez pas, alors quoi, on est au mois d'août, vous avez déjà vu pleuvoir au mois d'août à Jérusalem, à Tel Aviv, c'est pas possible. Il va pleuvoir, de bonnes pluies, ne vous inquiétez pas. Des bonnes pluies qui vont rattraper en quelques jours 3 ans de sécheresse. Eh ben oui, il y a eu en quelques jours, en une semaine je crois, d'accord, tellement de pluies au mois d'août que ça a rattrapé 3 ans de sécheresse. C'est la Bible, on y croit, c'est marqué, c'est l'histoire sainte, ils disent. Mes amis, ça, c'est un miracle surnaturel. C'est pas de ce dont parle le Malbim. Il parle pas de ça. Ça, c'est sûr que ça existe. Mais ça, écoutez-moi bien, ça, effectivement, c'est Dieu qui fait fonctionner. Mais c'est pas ça qu'il parle. Le Malbim parle du fonctionnement de la nature par le comportement de l'homme. Ça, c'est un chidouche qu'aucune religion ne connaît. Parce que la majorité des juifs n'ont jamais entendu parler de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Même si on le dit tous les jours, vayayim shamoa, mais on ne réfléchit pas à ce que ça veut dire. C'est-à-dire que mes amis, écoutez-moi bien, il y a 3 types de mécanismes. Le mécanisme naturel, il pleut en Bretagne parce que c'est l'automne. C'est de l'eau mouillée. Le mécanisme surnaturel, il pleut en plein mois d'août à Tel Aviv. Mécanisme miraculeux. Ni l'un ni l'autre n'intéresse les juifs. Pourquoi? Parce que et l'un et l'autre concernent aussi les goyim. Les goyim aussi peuvent avoir des miracles du type la pluie au mois d'août. Bien sûr, il n'y a pas que nous qui pouvons avoir ça.
Évidemment. C'est la conséquence du comportement de l'homme.
Non. Oui, mais oui, mais c'est pas l'homme qui fait actionner ça. Si l'homme est méritant, Hachem lui agit. Voilà. Juste. La nuance est très juste. C'est le mérite de l'homme, mais ce n'est pas l'influence de l'homme. Ça, c'est pas Hachem. Hachem peut décider de faire un miracle, même à des goyim. Et il en a fait, et en fait, et en fera encore. Les deux premiers systèmes, naturels ou miraculeux, concernent l'humanité tout entière. Un seul système a été donné au peuple juif. On est les seuls dépositaires de ce système-là. C'est que la nature elle-même fonctionne. Au moment où la nature fonctionne, pour nous, elle fonctionne aussi, mais grâce à nos actions. Vu de l'extérieur, on ne voit pas la différence, on ne voit rien. Mais nous, on sait que c'est nous qui avons fait fonctionner ça. Caché derrière le voile que c'est le printemps, mais en vérité, c'est Guichmé, Bracha. Et toute la différence est que grâce à ça, on reçoit des énergies qui vont faire de nous un peuple différent des autres, ne serait-ce que le fait qu'on échappe à la terrible loi de l'histoire humaine qui est que tout ce qui existe disparaîtra un jour. Nous, on a commencé à exister et on est les seuls qui existons encore depuis l'époque où nous avons existé au milieu de tas d'autres qui ne sont plus là aujourd'hui. En tant que civilisation, je parle. Mais la civilisation hébraïque, juive, thoraïque, elle est toujours là.
Est-ce que c'est pas un modèle qui pourrait être transposé pour l'humanité, ce modèle de pour Israël qui allie nature, intervention de l'homme et intervention de Dieu? C'est un modèle pour toute l'humanité aussi?
Je pense, oui, avec l'Imot HaMashiach. Je pense qu'à partir des temps messianiques, l'Imot HaMashiach, je suis pratiquement certain que ce modèle, qui est pour l'instant, dont nous sommes les seuls dépositaires, dans la mesure où nous sommes hors la goyim, que notre expérience n'est en vérité qu'une préparation à l'humanité tout entière, ce cadeau-là sera donné à l'humanité tout entière. Mais pas gratuitement, car un juif ne donne jamais rien de gratuit. Parce que le bon Dieu non plus ne donne jamais rien de gratuit. Et quand le bon Dieu est juif, automatiquement, il va falloir le payer. Comment qu'on va le payer? Quand l'humanité reviendra à sa dimension adamique, ça veut dire qu'elle acceptera les choses selon la pensée adamique, et les vivra surtout. À ce moment-là, l'humanité tout entière bénéficiera de ce que pour l'instant nous sommes les seuls à avoir, la capacité de faire que la nature obéit à notre comportement. Voilà, ça c'est, si vous voulez, l'un des plus grands chidouches du Malbim que j'ai eu moi l'occasion de lire. Je pense que j'ai eu l'occasion d'enseigner aussi, c'est un très très grand chidouche. Attention, il n'est pas du Malbim ce chidouche-là, c'est l'essence même du judaïsme authentique. Disons que le Malbim a eu le mérite de l'amener dans ce psaume et de l'expliquer de manière extraordinaire. Ça continue encore le texte, oui.
Alors, Boré Olam, il fait des miracles hors de le quotidien de la nature, il se présente comme El Shaddai, Shamar, le Olam.
Oui, bravo. Ça, c'est El Shaddai. Il dit Dai, ça suffit à la nature. El Shaddai. Et El Shaddai, c'est le Dieu qui a créé l'univers et les peuples aussi. Donc, c'est-à-dire que El Shaddai, les peuples peuvent le connaître. Les peuples peuvent bénéficier d'un miracle complètement surnaturel. Une armée non-juive peut tout d'un coup bénéficier d'un truc complètement surnaturel. La mythologie et les traditions populaires, etc., et se fondent sur ce genre de phénomènes, exagérés ou pas, mais qui ont existé. Comme je dis toujours dans l'application de Dieu, jamais un juif authentique n'a le droit de dire, quand il entend que dans d'autres religions on dit que leurs prophètes ou leurs leaders ont eu des miracles, mais c'est pas vrai, c'est une invention. D'abord, c'est un crime de dire une chose pareille. Pourquoi chez toi c'est vrai, chez nous c'est pas vrai? Pourquoi? Moi, ils disent pas que Jésus a marché sur l'âne Tibériade, ça me dérange pas. Mais alors vraiment ça me dérange pas, d'où qu'il a multiplié les pains. Mais alors pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des moines tibétains qui sont capables de le faire. Il y a des moines tibétains qui peuvent se rentrer 50 couteaux, ils sont pas morts. Je dirais non. Mais moi, je sais pas. Mais parce que moi, les miracles, je m'en fous, ça m'impressionne pas. Les miracles n'impressionnent que les crétins. Mais nous, on n'est pas une religion de crétins. Vous comprenez? Ça veut dire que moi, je dis c'est vrai. Vous comprenez ce que je dis? C'est vrai. Mais ce n'est pas une preuve que c'est authentique. Pourquoi? Parce que le miracle ne prouve rien. Le miracle n'est pas une preuve d'authenticité. Puisque même des moines idolâtres font des miracles jusqu'à aujourd'hui encore.
Le miracle, c'est qu'ils fassent des miracles.
Non, c'est parce qu'ils sont connectés à des forces surnaturelles qu'ils connaissent, qu'ils savent. Peu importe. Et la sorcellerie n'existe pas aujourd'hui. La sorcellerie est très répandue en Afrique et elle existe, et ô combien qu'elle en... Je connais suffisamment d'Africains, comme vous le savez, pour savoir que c'est très sérieux, la sorcellerie.
Comprenez comment le miracle, c'est pas une source de bracha. C'est-à-dire que c'est instantané, non. Mais il n'y a pas de M-Chef.
Mais le miracle, c'est nul, le miracle.
Alors, c'est quoi qu'on va faire d'accord?
Ce qu'on dit, c'est qu'au permanent, on peut vivre des miracles, sans qu'on les voit.
Non, c'est même pas forcément...
Ça, c'est un miracle, c'est nul. La terre qui s'est ouverte...
Et qu'on va faire d'accord.
Mais c'est sûr que ça s'est passé, moi j'y crois. Comme je crois aussi, je vais me faire descendre, mais comme je crois aussi que Jésus a marché sur le lac de Tibériade. Ça ne me dérange pas. Pourquoi je croirais un et pas l'autre?
Mais c'était chez vous, c'est écrit dans la Bible.
Eh bien, très bien. Mais ça ne me dérange pas. Mais très bien. Mais chez vous aussi, c'est marqué. Pourquoi je croirais mon livre et pas le leur? Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je m'en fous parce que moi, on ne m'impressionne pas avec les miracles. Je ne crois pas en quelqu'un parce qu'il fait un miracle. D'où je le sais? Parce que moi, j'ai des maîtres qui avaient un cerveau à cet endroit-là. Entre autres, un de mes maîtres, c'est Maïmonide. Qu'est-ce qu'il me dit, Maïmonide? Oh non, j'ai pas le texte devant les yeux. Si, il est derrière moi, mais le problème, c'est que je pense, le temps que je le cherche...
Mais Moshe a adressé le maître du
regard, monde. Nathan, je suis en train d'expliquer. Moshe Maïmonide dit, celui qui croit en Dieu à cause des miracles est un menteur. C'est menteur, c'est marqué. Celui qui croit en Dieu à cause des miracles... Yeshbo Dofi, sa croyance est une croyance mensongère. Un psaume de Maïmonide. Ah oui, Moshe Chaim, j'en suis plus retourné. C'est dans Mishneh Torah Aleph, dans Ilchot Avodazara. Dans Ilchot Yesod et Torah. Ilchot Yesod et Torah. Ilchot Yesod et Torah.
Alors pourquoi Moshe
Maïmonide, dans Mishneh Torah.
On y veut bien offrir aussi, il y a un voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il dit alors? Et donc il pose la question. Alors pourquoi Dieu fait des miracles? Parce qu'il avait besoin de le faire. C'est technique, c'est mécanique, mais c'est pas sur ça qu'on a parlé l'autre fois. Il voulait, les juifs étaient coincés, il a ouvert l'aube, mais on s'en fout de ça.
Mais quand le maître du monde savait que les gens n'arrivent pas à mettre, alors pourquoi Moshe il adresse au maître du monde en lui disant, tu veux faire faillite, c'est Korecha Adato, il faut que tu fasses miracle.
Parce que Moshe vivait dans une génération où il savait que les gens... sont influencés, parce que n'oublions pas, on parle à 3500 ans.
Non, on parle d'un peuple.
C'est éternel en ce sens que Hachem, connaissant son monde, sait que la grande masse n'est sensible qu'à l'impressionnant. Mais le problème, c'est que Hachem souhaite qu'un jour la grande masse viendra comme vous et moi, des gens instruits, sages, savants et intelligents. Et qu'il n'aura plus besoin de nous faire des miracles. Je vous signale, c'est des textes qu'on a déjà vus il y a très très longtemps. Les grands maîtres de la Chassidou disent que, avec la vie du Mashiach, il n'y aura plus jamais de miracles. Pourquoi? Parce que l'homme aura atteint un niveau tel où il sent que la nature elle-même est un miracle.
Nekouda, on a besoin d'autre chose.
Voilà.
Comment?
Non,
la nature sera notre plus grand miracle. On n'aura plus besoin. Ça, c'est un des enseignements les plus forts du Baal Shem Tov, repris par tous les rébéim de Chabad, etc. C'est que les Atid Lavo, les miracles, disparaîtront pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Hachem est obligé de nous faire des miracles pour... C'est comme la carotte, parce qu'on est des ânes. Alors, c'est sûr, c'est éternel, en ce sens qu'il y aura toujours une partie d'âne en nous. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour flatter l'âne en nous. Oui. Chazak. Alors voilà, il nous a appelé. Merci Moshe Chaim. Voilà ce qu'il dit. C'est écrit en petit. Moshe Rabbeinu, lo he'eminu bo Israël mitne aotot she'asa. Pleurez mes amis, parce qu'il n'y a qu'un maître juif pour nous apprendre des choses pareilles. Il prend le contre-pied de toutes les religions, c'est-à-dire de toutes les fausses religions. Qui disent, bah, écoute, il faut y croire, hein, il faut y croire avec tous les miracles qu'il a fait. Je traduis en français. Nous ne croyons pas en Moïse parce qu'il a fait des miracles. Chez Amaamin Alpi Aotot Yeshbelibo Dofi. Parce que celui qui croit à cause des miracles, son cœur est rempli de mensonges. Chez Efchar, chez Yahse Aot Belad Vekashu, parce que n'importe qui peut faire des miracles, même un sorcier ou un magicien. Et là, alors donc quoi? Pourquoi il y a eu des miracles? Vous vous rendez compte? Cet homme-là, il a vécu il y a 1000 ans. Vous imaginez, il est en avance de plusieurs milliards d'années sur les plus grands penseurs d'aujourd'hui. Maïmonide. Il y a 1000 ans, il a osé dire une chose pareille. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas 7 milliards de juifs sur Terre. Je ne comprends pas. Alors, et là, comment on peut ne pas être juif? J'arrive pas à comprendre. Ah, et là, donc quoi? Kol ha'otot she'asa Moshe b'midbar. Réponse à Nathan. Alors, mais comment il a ouvert la terre, il a tiré. Pourquoi il a fait tout ça? Si c'est pour les nuls, les miracles. Et la kol ha'otot she'asa Moshe b'midbar, les fiat so'asam, c'était mécanique, parce qu'il y avait besoin de le faire, c'est tout. C'est pas parce qu'il voulait rien prouver. Ça, il fallait le faire, c'est tout. Mais ce n'était pas un acte de foi, un acte de... Il faut le faire, c'est tout. L'Olehavi Raya la Nevoa, Moshe n'a jamais prétendu qu'on doit croire en lui à cause des miracles. C'est-à-dire que Moshe, c'était un vrai dino. Il disait aux gens de sa génération, hé, vous ne laissez pas impressionner par mes miracles, hein, je suis nul et c'est nul. Ne croyez pas en moi à cause des miracles. Parce qu'au Tibet aussi, ils font des miracles. En Afrique aussi, ils font des miracles. Ne croyez pas en moi à cause des miracles. Regardez ce qu'il dit Maïmonide. Lo le'avi raya la nevoa. Etc, etc, etc. Merci Moshe Chaim. Parce que c'était fondamental de le lire, ça. Ce genre de texte, pour moi, c'est le Kodesh HaKodashi de l'Yahadout. C'est le saint des saints du judaïsme. Ça, c'est la pile, c'est l'atome, c'est le cœur du judaïsme, ça. T'as compris ça, t'as tout compris.
Là, on a dit que les 10 plaies, les 5 premiers, d'ailleurs, même les Khatoumim, ils ont fait la même chose. Alors, il n'y avait pas de problème. C'est pour dire que ce qu'a dit Maïmonide, c'est la vérité. Mais les 5 derrière, quand tu es à Kshiach Libo, ça, c'était des vrais miracles.
Non, Rachid dit que les magiciens se sont dit, c'est un plus grand magicien que nous. Le Ramban explique, d'une manière la plus cartésienne possible, Nathan, que la raison pour laquelle Paro n'a même pas essayé de tuer Moshe, il pose une question, Ramban, Nachmanil, d'accord, c'est une question, mais comment on comprend ça? Parce que lui, c'est un maître juif, donc il croit que la Torah est vraie, donc il se pose une question rationnelle. On voit nulle part que Pharaon, qui est pourtant Staline multiplié par quelques milliards, a décapité et Moshe, a essayé, l'a menacé de mort au moins. Comment? Il dit, c'est très simple. Parce qu'il était tellement impressionné par les pouvoirs de la sorcellerie que possédait Moshe, parce que lui pensait que Moshe était un sorcier, qu'il a dit à toutes ses gardes, ne le tuez pas tant que je n'aurai pas découvert son secret, parce qu'après ça me permettra à moi de conquérir le monde. Et dès qu'on aura son secret, on le tue. Ramban, Rachid disent, ils étaient tous persuadés que Moshe était tout simplement un plus grand sorcier qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé leur maître, mais maître dans la sorcellerie. Comme quelqu'un qui est ceinture noire 3 dan, il rencontre un ceinture noire 7 dan. Ben, tant qu'il était 3 dan, il était avec des ceintures noires 100 dan ou des ceintures de marron, alors il faisait le malin. Il est tombé sur un 7 dan. Mais ça ne veut pas dire que le 7 dan, c'est Dieu. Très bien.
C'est pour ça que Pharaon fait appel à ses savants.
Comment ?
C'est pour ça que Pharaon fait appel à ses savants aussi pour
contre... Pour pouvoir découvrir le secret. Et jusqu'au dernier moment, et Ramban rajoute, et quand Pharaon a enfin compris que ce n'était pas un sorcier, mais un envoyé de quelque chose qui n'est pas de la sorcellerie, Kriyat Yamsouf. Ou c'est lui qui a dit Micha Mocha Baili Mashem. Il n'a pas dit Micha Mocha Moshe, Micha Mocha Baili. Maintenant, je sais que Moshe n'est que l'envoyé d'une puissance qui n'est pas de la sorcellerie. Il a compris ça à ce moment-là. Pourquoi? Comment? C'est pas le cours. Mais quoi qu'il en soit, il a compris à ce moment-là.
Est-ce que les miracles, c'est pas l'accomplissement de la reconnaissance justement de toutes ces...
Oui, mais c'est 100%. C'est pour ça que la première lettre de la Torah, c'est Bet de Bracha, et que la dernière paracha s'appelle Zot Abracha. Bien sûr, la Bracha, ce n'est que ça. La prise de conscience avant chaque action positive, d'accord, que le monde est connecté à une source invisible qui ne sont pas que les énergies. Pourquoi avant de prendre du café turc quand même, qu'est-ce qu'un turc peut nous apporter? Pourquoi avant de prendre du café turc on dit non pardon Nathan, excusez-moi.
J'accepte
café turc. Et en plus c'est Nathan qui fait le café turc. Mais qu'est-ce qu'un café turc peut apporter à un juif au point qu'il fasse une bracha? C'est sûr que le café turc, c'est pas lui qui va m'apporter quelque chose, au point que je bénis le maître du monde. Mais c'est parce que dans la matière, il y a des énergies que par la bracha, je capte. Et ce qui va faire que mon cours sera pas le même. Parce que si j'ai pas mon café turc, je suis sûr que le cours sera pas pareil. Impossible. Donc finalement, les turcs ont une part dans la diffusion de la Torah.
Vous voulez avoir les douches, les mots bracha, les mots même, ils contiennent des sens. Makor et bracha. La source de quelque chose, c'est la bénédiction de Dieu.
D'accord, c'est la source. Oui, la bracha, c'est la source.
Ouais,
c'est
non, le tchèque, c'est la source, c'est tout.
Pour ceux qui ne comprenaient pas, Nathan est né en Israël, mais il est d'origine turque.
Wow. Moi aussi.
Comment ? Vous aussi ?
Le tchénois.
Mais lui, il est un descendant direct d'un des plus grands maîtres de l'histoire juive contemporaine, qui était un grand maître turc, le Rav Palachi. C'était un immense, un des rares maîtres séfarades qui a été considéré comme le plus grand de tous, même par les Ashkenazis. Tellement il était grand. Et donc, il a donné le petit Nathan. Voilà. Quoi qu'il en soit.
Il y a eu les descendants de Chabatazi aussi, hein, faut pas oublier.
Oui, en Turquie, ben, partout il y a du bien et du mal. Regarde, elle sent bonne, elle a senti des gens bien, elle a senti Olivier aussi. Et les, voilà. Ok, mes amis. Alors, juste encore une petite phrase ou deux, parce que c'est tellement un chef-d'œuvre ce Malbim. C'est un mamache. Et donc, regardez. Encore une phrase ou deux. Mais voir, tu dois donc comprendre, on va conclure maintenant. Le même, donc Dieu qui a créé le monde en général, donc l'univers, le cosmos, etc. Ameyusad, qui effectivement est fondé sur Chukim, Tivim, Kvuim, Bilti Mishtanim, sur des lois qu'on en connaît, qu'on apprend en mathématiques, en chimie, en physique, en biologie, etc. Toutes ces lois qui font fonctionner le monde. Ve'et Aolam Akatan, mais il n'a pas créé que le grand monde, il a aussi créé le petit monde qui est l'homme. Ve'et Aolam Akatan, non, je parle chez où à Adam. C'est-à-dire que quoi ? Que l'homme, c'est le petit monde qui est mis dans le grand monde. Et vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Et là, le texte en hébreu ne va faire que dire en hébreu tout ce qu'on vient d'expliquer. Mais regardez ce que je voulais lui dire, parce que c'est très très beau. Asher Ulevado, mais la différence entre le grand monde et le petit monde, c'est que le petit monde est le seul des deux mondes qui, lui, mitnaeg, peut se comporter al pichukim achirim, d'après d'autres lois bechiriim, qui proviennent de la conscience, le libre arbitre, non, en moderne, en français moderne, de la conscience, et non de la nature. Asher yeshamir otam et bechirato, et qu'il peut agir selon sa conscience. Et s'il y a la sécheresse quelque part dans le monde, les nuages n'ont pas de conscience, ils ne peuvent pas décider de tout d'un coup se déplacer et d'aller faire pleuvoir à un endroit où meurent de faim des populations entières, parce que la nature n'a pas de conscience.
Ah, c'est le shrakim qui peut faire ça.
Non, on ne parle pas de miracles surnaturels, on parle de miracles naturels, encore une fois. Donc, la nature, elle, n'a pas de conscience, mais l'homme, lui, il a une conscience. L'homme a gagné 2000 euros, très bien, il peut en faire des choses pour son profit personnel, je ne parle pas de choses mauvaises, mais pour son profit personnel, il peut entendre que son voisin est vraiment dans la difficulté énorme, et il peut dire, voilà, écoute, je les prête, c'est pas grave, profites-en toi maintenant, quand tu pourras, tu me les rendras. Ça, c'est un acte de conscience. Un nuage ne peut pas faire ça. Un nuage ne peut pas dire je vais aller prêter mon eau en Afrique quand il y a la sécheresse là-bas, parce que le nuage, il doit être au-dessus de la Normandie, les Kouda. Donc le nuage n'a pas de conscience, mais l'homme, il a oui une conscience. Ve'oube prirato, et lui, grâce à sa conscience, yimshol al chouke goufo ativim, il peut aller à l'encontre des lois naturelles de son corps. Mon corps a faim, mais toi, tu as plus faim que moi. Je peux décider de ne pas aller selon les lois de ma nature, mais selon les lois de ma conscience. Prends. Ça, il n'y a que l'homme qui peut faire ça. Jamais un animal ne fera ça. Un animal ne donnera pas à un chien qui a enfin trouvé quelque chose dans une poubelle, d'accord ? N'ira certainement pas le donner à un autre chien qui a plus faim que lui.
L'instinct maternel, l'animal a l'instinct maternel.
Mais ce n'est pas un acte de conscience. Vous l'avez dit, oui, mais c'est un acte naturel. Ça veut dire qu'il y a dans la nature, pour les besoins de la survie de la race, il y a dans la nature, d'accord, un mécanisme naturel dont la maman n'est pas consciente, que le temps que les petits chiots peuvent se débrouiller tout seuls, tout ce qu'elle a, elle le donne à manger à ses chiots ou à ses petits chats. D'accord, il y a beaucoup de petits chats ici, on le voit. D'accord, comment des chattes maigrichonnes qui n'ont pas de quoi manger, le peu qu'elles ont dans la bouche, elles l'apportent. Pourquoi ? Parce que c'est inscrit dans sa nature, pour que la race puisse continuer. Donc ce n'est pas un acte de conscience, c'est un fonctionnement de don, mais lié à la nature. Ben, la pluie aussi c'est un don, puisqu'au lieu de rester en haut, elle vient en bas. Mais ce n'est pas une conscience. Là on parle d'un acte de conscience. C'est-à-dire, je ne le fais que parce que j'ai conscience que tu as plus besoin que moi. Ok. Parce que si j'allais devant ma nature, mon corps, lui, il a très faim. Il n'a pas envie de te donner. Donc, maintenant, et qu'est-ce qu'il, et donc, regarde ce qu'il dit. Donc, l'homme, il est capable, il a un système en lui qui est capable d'imposer la conscience à la nature, à sa propre nature. Et donc, qu'est-ce qu'il va expliquer ? Finalement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que finalement, je me rends compte qu'il y a de quoi faire encore au moins un cours sur cette partie-là, mais je l'introduis, donc lundi prochain, Bezrat Hashem, mardi prochain, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va expliquer qu'en vérité, que de la même manière que l'homme, il est le seul, c'est ça le Venatati, j'ai mis en toi, à avoir reçu dès le départ deux Maharachot, deux systèmes, le système naturel et le système de la conscience. Et il est capable de transformer sa propre nature grâce à la conscience. Et ce qu'on verra la semaine prochaine, le Chiddush est absolument incroyable, c'est qu'il y a des canaux énergétiques qui lient l'univers tout entier à l'homme. Et quand l'homme, à l'intérieur de lui-même, s'impose à sa nature, il fait basculer la nature tout entière dans ce système de la conscience qui s'impose à la nature. Oui, le petit homme arrive à influencer le cosmos tout entier. Pas un homme, je pense, mais au moins un peuple. Arrive à influencer le cosmos tout entier, en bien et en mal. Mais ça, on va voir comment il va expliquer la semaine prochaine.
Alors, d'après Malbim,
oui.
D'après Malbim, la phrase qui est « Hashem bara Elohim » la saute. Quand il dit « Hashem bara Elohim », après, il peut s'en sortir de tout le système.
Oui, absolument. D'après le Malbim, on n'a pas besoin d'Hashem pour faire fonctionner le monde naturellement. Le monde, d'après la morale et la nature, on a besoin d'Hashem. On a besoin d'Hashem uniquement lorsque Hashem décide de faire quelque chose de complètement surnaturel. Ça veut dire qu'il pleut au mois d'août. Ça, c'est que Hachem qui peut faire ça.
Et la morale, c'est Chesed, alors.
Voilà.